Science CQFD, Natacha Triou.
En 1973, Soleil Vert de Richard Fleischer rencontre un grand succès à sa sortie et frappe durablement les esprits. Pourquoi revoir ce film aujourd'hui, en 2022 ? Dans un monde où il fait chaud, très chaud, 44 millions d'habitants s'entassent dans un New York aux allures de camps de réfugiés. Il n'y a plus de nature, plus de nourriture et on y mange des biscottes lyophilisées d'origine douteuse. Une dystopie éco-apocalyptique où règne une ambiance noire, ouverte, devrais-je dire. Ce film incontournable et pas seulement pour les amateurs de science-fiction est souvent qualifié de prophétique. Et vous savez quoi ? L'action se passe en 2022. Soleil Vert, l'alerte rouge. Bonjour Catherine Dufour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine de science-fiction et ingénieure en informatique avec vous, Frédéric Ducarme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en philosophie de l'écologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et avec nous également Yannick Rumpala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Nice. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct de nos studios. Nous sommes tous très heureux, très émus par cette première semaine de lancement de cette nouvelle émission, La Science CQFD, et tous très heureux de conclure cette semaine avec vous autour de ce film Soleil Vert. Alors, la fin est extrêmement célèbre, mais si vous ne la connaissez pas et si vous ne voulez pas vous gâcher le plaisir, arrêtez tout de suite d'écouter cette émission, regardez le film puis reprenez l'écoute en podcast sur le site de franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Voilà, après ce spoiler alerte et toutes les précautions prises, épongez votre front, branchez votre téléviseur. Nous sommes donc à New York en 2022 et il est l'heure du goûter.
Cet entretien avec le gouverneur Henri Santini vous est offert par Soleil Rouge et Soleil Jaune, végétaux à grande puissance énergétique, et le tout nouveau et délicieux Soleil Vert, l'aliment miracle au concentré de plancton recueilli dans les mers et océans du monde. En raison même de son immense popularité, Soleil Vert est devenu une denrée rare. N'oubliez pas que c'est mardi, le jour de Soleil Vert.
Pourquoi tu ne prends rien ?
Oh, j'ai pas encore assez faim.
Je te laisse manger.
Cochonnerie sans odeur et sans goût. T'as rien connu d'autre, bien sûr. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où, on achetait des œufs, du vrai beurre, on trouvait de la litue fraîche à gogo.
Je sais, seul, tu m'en as déjà parlé.
Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre ?
On se croirait dans un four, on crève à force de transpirer.
Tu sais que tu m'agaces.
La première scène du film Soleil Vert, juste après son générique anxiogène. Voilà, le décor est planté. Catherine Dufour, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter le pitch du film, hein, quelle est l'intrigue de Soleil Vert, et vous avez le droit de tout divulgâcher.
J'ai le droit de tout spoiler. Eh ben, effectivement, c'est un homme nommé Sorn, le beau Charlton Heston, qui va devoir résoudre un meurtre crapuleux d'une personne très riche. Il a un vieux copain nommé Sol, et au terme d'une enquête épique, Sorn va réaliser que le fameux Soleil Vert qui est censé être fait à base de plancton, ben il est pas fait à base de plancton, il y a plus de plancton, il y a plus rien. Donc il est fait à partir de corps de gens euthanasiés, notamment des vieillards, et notamment son copain Sol. Et le film, puisque je spoil jusqu'au bout, se termine par Charlton Heston hurlant « Soylent is people », le soleil vert est fait à partir de cadavres. C'est délicieux.
Miam, miam. Frédéric Ducarme, à propos voilà, de ce pitch.
Alors, je rien à ajouter sur le pitch. Cette scène d'ouverture, elle est hyper intéressante parce que on a donc Sol qui est un vieillard, hein, donc c'est pour ça qu'il va être euthanasié à la fin du film, avec Charlton Heston qui est censé être jeune, même s'il là pour le coup, au niveau du casting, il était un petit peu vieux pour le rôle. En tout cas, on a un jeune et un vieux qui radote. Ah moi, quand j'étais jeune, on avait encore de la nature des animaux. Or, le film se passe en 2022. Donc quand il était jeune, c'était à peu près en 72, si on fait les âges. Et ce qui est très très drôle, c'est que ce vieux Sol dans le film, ce vieux con qui radote, c'est le spectateur de 1972, qui a 20 ans, et qui en 2022 en aura 52 plus. Et donc, c'est assez drôle de voir comment le spectateur est saisi en étant déjà un vieux con qui se rappelle de la beauté de la nature en 72, à une époque où il reste plus rien.
De voir tout de suite un futur soi, le spectateur qui est projeté comme ça dans le film. Yannick Rumpala, hein, sur ce pitch de Soleil Vert qui est quand même assez célèbre.
Alors oui, effectivement, il y a ce que le pitch raconte et puis il y a ce qui est dans le décor, quoi. Il y a l'histoire. Et à mon avis, l'aspect le plus marquant du film, c'est ce qui est tout autour, quoi. C'est ce que le film thématise et dont on discutera sans doute après. C'est la surpopulation, l'épuisement des ressources, la nature qui n'existe plus. Et toute une série de détails qu'on relève pas forcément, mais je pense qu'on en reparlera. C'est l'érosion de la culture aussi. Il y a une image qui est assez fracante où le bulletin que ramène le policier. Le bulletin, c'est aussi des livres. Pas seulement la nourriture qui disparaît, c'est aussi tout un environnement qui a profondément changé.
Alors les bagarres ont un peu mal vieilli. Elles ont le charme des années 70. Alors c'est peut-être vrai sur la forme, mais est-ce que dans le fond, est-ce que ce film a vieilli, Frédéric Ducarme?
Alors ça dépend pourquoi. Au niveau de l'image, oui, sans doute. Au niveau du scénario, ben, au contraire, il ne cesse de rajeunir. C'est quand même un film des 70s qui vous raconte une année 2022 de réchauffement climatique où tout le monde est masqué dans la rue. Ça, c'est un truc dont personne ne se souvenait.
Ouais.
Et là, en le reprojetant l'an dernier, on s'est tous aperçus avec horreur que les gens sont masqués dans la rue dans ce film. Ça, c'est quand même assez fort. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui n'est pas spectaculaire. Il est aux antipodes de ce que va devenir plus tard le cinéma hollywoodien à thématique écolo, à la Roland Emmerich. Là, il n'y a pas de grand spectacle. Au contraire, c'est très laid, c'est très gris. C'est un avenir qui est grisâtre, qui n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas du drame, hein, c'est juste une tragédie morne. Et ça, c'est effrayant parce que c'est assez réaliste aussi.
Oui, c'est de la SF qui n'est en effet pas du tout spectaculaire. Parce que ça donne envie forcément de faire ce parallèle avec notre époque, 2022. Catherine Dufour, est-ce que ce film fait écho avec l'actualité de notre monde?
Oui, bien sûr, aussi bien la canicule que la raréfaction des ressources, on est vraiment en plein dedans. C'est une vraie angoisse et une vraie catastrophe, d'autant que le film vient d'un livre qui lui angoissait sur la bombe démographique. Mais au moment où le film a été réalisé, on avait déjà un peu moins l'angoisse de la bombe démographique, mais on commençait à avoir carrément l'angoisse de la bombe, de la destruction des ressources naturelles. Donc il y a un vrai décalage entre le livre et le film. Et la bombe démographique n'a pas été la bombe qu'on a craint. Peut-être qu'en 72, on s'est dit, la bombe de la destruction des ressources naturelles, elle va se tasser avec le temps. Dans 40 ans, on n'en parlera plus. Eh bien, raté et totalement raté. Et je voulais revenir aussi sur le fait que ce film n'est pas... Effectivement, il n'a pas la grandiloquence hollywoodienne des blockbusters actuels. Mais par contre, il est extrêmement poignant. Hein. Il y a le côté poignant de la scène dans le thanatorium. C'est à la mort de Sol, donc le vieil homme, il faut qu'il aille mourir, et donc on l'euthanasie tout simplement parce qu'il est vieux. Ça aussi, ça fait écho à pas mal de discussions actuelles sur la fin de vie assistée. Et donc le deal, c'est qu'on lui offre un départ en douceur, en lui offrant des images de la nature telle qu'elle a été et telle qu'elle n'est plus, tout en écoutant de la belle musique du Beethoven et du Grieg, pendant que Charlton Heston pleure, son personnage Thorne pleure. Et en plus, Charlton Heston pleurait vraiment parce que le vieil homme qui jouait Sol était lui-même un ami et un vieil acteur, Orbison, qui était en train de vraiment mourir d'un cancer et qui est mort peu de temps après. Ça a été son dernier film. Donc rien que d'en parler, j'ai envie de repleurer. Et ce film m'a beaucoup fait pleurer.
Oui, c'est une scène en effet assez centrale qui a marqué beaucoup de gens pour l'émotion que vous décrivez. Alors vous venez d'évoquer des différences entre le film et le livre. En effet, Soleil Vert au départ, c'est donc un livre, Make Room de Harry Harrison en 1966. On peut parler des différences qui sont assez aussi révélatrices des époques à lesquelles ces œuvres ont été produites, Frédéric Ducarme. Les premières différences, il y a le changement de titre, mais quelles sont les différences entre le roman et le film?
Alors il y a le changement de titre, il y a toute la fin, et surtout il y a les thèmes, et outre les thèmes, il y a l'équilibre dans les thèmes. Vraiment, le livre, c'est un livre malthusien, démographiste, sur la peur de la surpopulation, qui est une grande peur des années 60. En 68 sort le fameux livre Population Bomb de Paul Ehrlich, qui est le grand livre de la peur démographique. Or, juste après, on découvre la notion de transition démographique, on s'aperçoit que tous ces pays développés qui avaient connu le baby boom, ça commence à se tasser. Et on arrive à comprendre que ça sera pareil dans les autres pays. Donc la peur démographique disparaît progressivement à partir de 70. Et quand le scénario arrive sur la table de Richard Fleischer, il dit, il va falloir, ça ne sera pas suffisant côté démographique, c'est plus à la mode, il va falloir adapter, trouver autre chose. Et c'est là qu'il y a ce coup de génie de Richard Fleischer qui dit tout simplement, bah, je vais aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Et donc il va voir Frank Bowerman, qui est un écologue américain, un professionnel de l'écologie, et c'est lui qui va lui dire, bah, ok, les vrais thèmes de l'avenir de la biosphère, ça va être le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, le problème des ressources, etc. Et donc tous ces thèmes qui existent déjà un petit peu dans le livre, là vont devenir majeurs, alors que dans le livre, ils sont secondaires. Inversement, la surpopulation, dans le film, elle est présente visuellement, on voit qu'il y a plein de gens qui s'entassent, mais c'est pas tellement l'objet des discussions, en fait. C'est pas le thème central du film, finalement.
Oui, c'est plus... Oui, pardon, Catherine Dufour.
Oui, excuse-moi. Il faut se rappeler qu'en 72, elle a sorti du rapport Meadows du Club de Rome qui met les deux pieds en plein milieu du plat de l'épuisement des ressources naturelles et de l'érosion de l'environnement.
Oui, un rapport qui dit qu'une croissance éternelle n'est pas viable dans ce monde. Alors, par rapport, pour revenir un peu sur le livre, Yannick Rumpala, dans les années 60, on a donc cette peur très malthusienne de la surpopulation et c'est ce qui est donc central dans Make Room, Make Room.
Alors oui, c'est effectivement une peur qui va se développer, et on le disait auparavant, hein, en relation avec les études démographiques qui elles-mêmes se développent au même moment. Et on voit dans la littérature toute une série de romans qui vont après être reportés au cinéma, qui évoquent cette idée-là. Bon, on peut penser évidemment à « Tous à Zanzibar » de John Brunner, qui lui aussi évoque la thématique démographique. Il y aura aussi « L'âge de cristal », Logan's Run, qui lui aussi sera décliné au cinéma. Et donc, on trouve, voilà, à la conjonction de la littérature et des productions culturelles, toute une série de ce qu'on a appelé, de ce que certains chercheurs ont appelé des démodystopies, des dystopies démographiques, voilà, qui vont également absorber conjointement d'autres anxiétés, les anxiétés écologiques. Et ce qui est intéressant aussi à travers le film, c'est pas seulement les aspects écologiques, mais nous montrer aussi comment ces aspects écologiques ont des ramifications sociales, et notamment en termes de stratification et de séparation croissante entre le peuple et les élites, et qu'on voit métaphorisé avec, effectivement, la nourriture, qui, en tout cas la bonne nourriture, qui va être réservée aux élites, et puis le peuple qui va devoir se contenter, effectivement, de ces produits bas de gamme que sont le soleil rouge, le soleil jaune et le fameux soleil vert.
Ça, sur les critiques sociétales de ce film, on y reviendra plutôt en deuxième partie d'émission. Pour rester sur cette idée de surpopulation, qui est en effet un thème capital dans le roman et visuellement fort, hein, dans le film. Aujourd'hui, on sait que la crise écologique n'est pas liée à la quantité de personnes sur Terre, mais qu'elle est liée au mode de consommation. Mais sur cette surpopulation, en tout cas aujourd'hui, ça ne fait plus trop partie des thèmes de la science-fiction contemporaine, Frédéric Ducarme.
Alors ouais, au contraire, actuellement, là, il y a un rapport qui a fait un peu de bruit récemment. Je crois que c'est HSBC qui l'a fait, qui dit qu'en 2100, il n'y aura plus que 4 milliards d'humains. Ça a été très critiqué par les démographes, mais de fait, actuellement, la plupart des démographes vous disent que l'humanité n'atteindra sans doute jamais les 10 milliards, parce qu'on est déjà en train de diminuer. En dehors d'Afrique, il n'y a quasiment aucun pays qui renouvelle sa population actuellement, et à tel point que ça devient un thème inverse. Par exemple,
C'est une étude quand même qui a été publiée, mais qui est quand même complètement contestée aussi par les démographes, mais ça montre en effet que rien n'est...
C'est pas forcément le scénario majeur, mais c'est un scénario envisageable. Et du coup, ça fait d'autres films, et un des grands autres films écologiques pour moi, c'est Children of Men d'Alfonso Cuarón en 2006, où lui, au contraire, qui parle de la dépopulation et surtout de l'humanité qui devient stérile. On saura jamais trop pourquoi dans le film, mais bon, actuellement, vraiment, les problématiques de pollution ont vraiment ce genre d'effet-là. Et c'est marrant de voir comment le cinéma s'adapte aussi aux différentes grandes peurs des différentes époques.
Oui, Catherine Dufour.
Oui, juste pour dire, effectivement, HSBC, ils exagèrent un peu, 4 milliards d'êtres humains en 2100. C'est, quand vous posez la question, on vous dit, bah oui, c'est vraiment la pointe de la fourchette. C'est très probable. Mais quand vous regardez des projections un peu plus larges, on s'aperçoit que, quand même, effectivement, il y a, hors l'Afrique, comme tu le dis très bien, pas un seul pays qui arrive à renouveler sa population. L'Afrique, elle est à 4 hein, en fécondité. Elle sera à 3 en 2050 et elle sera en dessous de 2 en 2100. Donc, on va quand même vers une baisse de la population mondiale qui est certaine, sauf tout d'un coup, je sais pas, on est tous pris par le démon de la fornication. Mais à part ce genre d'événements peu probables, c'est tout de même une tendance assez lourde.
Donc, on évoque hein, cette peur. l'ampleur de l'infertilité dans les imaginaires contemporains, donc Le Fils de l'Homme, Alfonso Cuarón en 2006, ou plus récemment encore La Servante Écarlate. Et donc, dans les années 70, Richard Fleischer, c'est déjà un peu ringard, cette idée de surpopulation, mais il va avoir donc une idée assez génial à ce moment-là, quand il doit retravailler le scénario, Catherine Dufour, cette idée de cannibalisme industrialisé.
Oui, alors là, moi, je sais pas d'où ça a pu lui venir, sinon d'une très très mauvaise post-cuite. Parce qu'il y a... Il y avait ça vaguement dans un vieux Wells, mais je crois que d'ailleurs c'est la machine à voyager dans le temps, où quand le héros va dans le futur, il découvre une terre qui est livrée à deux populations. Il y a des gens très très gentils, tout mignons, et puis il y a un autre peuple qui est très méchant et qui mange les premiers. Donc on entrevoit ça effectivement dans un certain nombre d'œuvres, mais ce qu'il y a, c'est que l'industrialisation de la destruction de l'être humain pour en faire des éléments, ça. Les écrivains de science-fiction n'ont pas eu besoin de l'inventer, vu que ça a été fait in real life par l'humanité dans les années 40. Donc c'est peut-être un écho de ce traumatisme-là dans la littérature de science-fiction.
Mais l'anthropophagie industrialisée. Yannick Rumpala, par rapport aux ajouts dans le scénario pour le film Soleil Vert.
Alors oui, il y a ce coup de génie, effectivement, de ce que vous avez dit, le cannibalisme à échelle industrielle. Mais après tout, c'est une forme de conséquence logique. Hein. Quand il n'y a plus aucune ressource, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que les sources d'énergie qui sont dans les corps humains. L'autre coup de génie, à mon avis, c'est que le lien était assez peu fait, mais que c'est ce que l'humanité a fait, après tout, avec les farines animales. Hein. Mm. Donner des farines animales à manger à des animaux herbivores, c'est... Oui, voilà, exactement, les vaches. Voilà, c'est le film n'a fait que métaphoriser par anticipation une pratique qui allait se généraliser ensuite dans l'élevage, voilà, et pour des raisons également industrielles, voire clairement financières.
Frédéric Ducarme.
Oui, c'est une thématique, le cannibalisme, c'est vraiment le niveau extrême du post-apocalyptique, c'est ce qu'on retrouve dans La Route aussi, encore un grand film de SF mis au cinéma. Après, alors ce qui est drôle là, c'est plus le biologiste en moi qui parle, c'est que beaucoup de ces œuvres de SF considère qu'on peut arriver à une extinction totale de la vie sur Terre, mais que les humains seront encore là. Et ça, j'aimerais bien savoir par quel mystère, parce qu'avant que tout le plancton disparaisse, faudra s'être bien accroché à nos baskets quand même. Dans La Route, il reste même plus un cafard, même plus une fourmi, même plus un tardigrade, et les gens sont en pleine forme, et ça, c'est assez impressionnant.
Oui, c'est assez souvent. Moi, là, par exemple, dans le Vesper Chronicles, un film de science-fiction que je vous recommande et qui vient de sortir, il est absolument magnifique, mais à la fin, il y a tout un tas de petits jeunes gens qui crapahutent dans une nature, on va le dire, extrêmement intoxiquée, et qui marchent pendant des heures. On imagine des jours dans la bouillasse et dans la neige jusqu'aux genoux, et ils ne s'écroulent pas morts de faim. Ça, je pense que c'est parce qu'on a oublié, nous, en tout cas, les gens qui réalisent des films, on n'a jamais vu une grande famine de notre vivant, parce que sinon, on saurait qu'un être humain, il ne peut pas crapahuter plus de... Enfin, voilà, on a besoin de faire 3 repas par jour, sinon on s'écroule. Mais ça, je crois qu'on n'est pas...
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h18 sur France Culture, nous revenons sur un classique de la science-fiction, Soleil Vert, en compagnie de Catherine Dufour, Frédéric Ducarme et Yannick Rumpala. Est-ce que vous vous souvenez de l'effet que ce film vous a fait la première fois que vous l'avez vu, Catherine Dufour?
J'ai pleuré, moi, c'était affreux. C'est vraiment cette scène avec les ruisseaux, avec les fleurs, avec les chevaux, ce vieil homme qui pleure et tout le monde qui pleure, et j'ai pleuré. Et c'est amusant parce qu'il y a une vidéaste qui s'appelle Dominique Gonzalez-Ferster. Oui, et elle a fait une vidéo puisqu'elle est vidéaste, et c'est une grande artiste française que le monde nous envie, qui est pas assez connue par chez nous, et elle a fait sa vidéo Soleil Vert où elle dit: moi, j'ai vu Soleil Vert quand j'avais 12 ans, je m'en suis jamais remise et j'ai pleuré 3 jours, et je la comprends tout à fait.
Qui est en effet une grande artiste, une œuvre assez touchante. Frédéric Ducarme, votre réaction à ce film, la première fois que...
Alors, moi, j'ai connu d'abord son ombre. Je l'ai vu assez tard, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que mon père me racontait que c'est un nom qui est revenu plusieurs fois quand j'étais gamin, et je sentais le souvenir traumatique. Donc, j'ai vu assez tard, j'étais déjà écologue, et donc il ne m'a pas forcément traumatisé. Par contre, l'an dernier, quand on l'a projeté au Musée de l'Homme, c'était une projection commentée, et à la fin, il y avait un débat avec la salle, et il y a une dame qui a pris la parole, qui a dit: ben voilà. Alors moi, je viens d'arriver parce qu'en fait, je l'ai vu à sa sortie Et je voulais pas le revoir, mais je voulais en discuter. Et donc j'ai pas voulu revoir ce film parce que je m'en suis jamais remise. Et là, on était 50 ans plus tard.
Traumatisée.
Elle ne voulait pas le revoir, mais elle avait besoin d'en parler. Et il y a plein de gens comme ça. J'en parlais avec des collègues tout à l'heure encore. Ça a été un traumatisme puissant pour une génération entière. C'est vraiment impressionnant.
Yannick Rumbala ?
Ciel, il nous a quitté.
En fait, j'en avais déjà entendu parler. Je connaissais le contenu. Je continue.
Ah oui, oui, on vous écoute. Nous sommes pendus à vos mots.
Vous l'avez spoilé ?
J'ai cru que j'avais disparu dans le cyberespace.
Non, vous êtes bien.
Pas spoilé, mais j'avais lu déjà beaucoup de choses auparavant. Et m'intéressant aux questions écologiques, en fait, j'ai eu l'impression de retrouver dans le film des choses que je lisais dans des travaux plus académiques et plus scientifiques. Donc il y avait une espèce d'effet de miroir assez perturbant entre ce qui était censé avoir été anticipé par la fiction et ce qu'on commençait à voir dans la réalité à travers une série de problématiques écologiques qui devenaient prévalentes et très présentes sur le devant de la scène.
Il y avait une chose aussi, un thème qu'on voit beaucoup dans Soleil Vert et qui était vraiment une angoisse de l'époque et peut-être un peu moins la nôtre, c'est la peur que la totalité de la planète soit enfouie sous une vaste décharge publique. Et ça, on le retrouve souvent dans les livres de science-fiction des années 70, cette peur que vraiment le moindre pouce de terre émergé soit recouvert de 1 km de poubellure. On retrouve ça aussi dans un livre des années 70 qui est très très bien, qui s'appelle Fœtus Parti de Pierre Pelot. Et ça aussi, c'est une crainte, une angoisse qui a un petit peu disparu.
Oui, c'est vrai que ça fait partie des premières images du film, le générique, où on voit une accélération d'images même un peu douloureuses, on voit des décharges à ciel ouvert.
Ce générique est magnifique.
Qui s'accélère, qui montre comme l'accélération du progrès. Est-ce que, moi c'est une question que je me pose, est-ce que le message reçu par les spectateurs en 1974 est le même que celui d'un spectateur qui voit ce film en 2022? Est-ce qu'il n'y a pas un biais est-ce que ce film, on le regarde différemment selon notre contemporanéité, Frédéric Ducarme?
Eh ben ouais, pas du tout. Ça qui est hyper intéressant, c'est que tous ces gens, justement, traumatisés en 72-73 par le film, c'était beaucoup l'histoire du cannibalisme qui les avait choqués et qui était resté. Alors qu'aujourd'hui, finalement, moi, s'il n'y avait pas ça, en fait, à la fin, ça ne me dérangerait pas, ça ne changerait pas grand-chose pour moi. Par contre, c'est sûr, vraiment, le film sur l'érosion des ressources, où on vous explique qu'en fait, il n'y a quasiment plus de vie, les océans sont vides, minéralisés. Le réchauffement climatique aussi, qui est très intelligemment amené, parce qu'en fait, on n'en parle pas tellement à part cette scène du début, simplement les gens transpirent. Pendant tout le film, c'est moite. Les gens transpirent, on sent qu'ils souffrent, et qu'à un moment, il prend une douche, il a un plaisir à prendre une douche, c'est extraordinaire. Et ça, c'est plus ça, ouais, qui, pour ma génération, je pense, sont les choses qui nous parlent. Alors que le cannibalisme, c'est pas notre peur principale, je pense.
Oui, je pense que cet été, je crois que ça parle à tout le monde, en fait.
Après l'été qu'on vient de passer.
Ouais, ouais.
Oui, sur des températures qui n'est d'ailleurs pas terminée. Alors, on évoque la perception de ce film en 1974. Écoutons ce qu'en a pensé l'un des plus célèbres lanceurs d'alerte du XXe siècle, le géologue Haroun Taziev.
Mon métier de géologue me fait parcourir la planète et me fait aller dans des endroits où, en principe, aucune pollution ne devrait parvenir. La pollution gagne le bien le plus précieux de l'humanité, qui est l'eau. Et on en parle dans le film de la pénurie d'eau. L'eau douce, qui est quelque chose d'essentiel, l'eau douce, en Belgique, pays voisin du nôtre, l'eau douce commence à être un problème en Belgique, et pourtant, Dieu sait s'il y pleut. Donc, ce n'est pas un mythe pour moi. Pour moi, c'est la dénonciation. Et elle m'a fortement secoué, la vue de ce film m'a très fortement secoué. La dénonciation d'un triple danger essentiel qui guette l'humanité, qui est avant tout de dénaturer
la nature.
Dénaturer, donc ce qu'on appelle la pollution, quoi, l'environnement, etc. J'aime pas ces termes dans ce sens-là. Deuxièmement, une hypernatalité démentielle qui fait que le nombre d'humains croît à une vitesse effroyable, beaucoup plus vite que ne croissent les ressources alimentaires, qui elles décroissent d'ailleurs, d'un certain côté. Et troisièmement, l'épanouissement des puissances supranationales industrielles qui mettent la main non seulement sur un pays, mais sur un ensemble de pays. Et nous venons d'en avoir la preuve avec ce que les grandes compagnies pétrolières viennent de réussir comme coup magnifique pour doubler ou quadrupler, je ne sais pas, leurs bénéfices à l'occasion de la guerre du Kippour.
Taziev, dans 50 ans, le monde sera difficile à vivre.
Il sera certainement très difficile à vivre. Ce que je souhaite, c'est que l'humanité en prenne suffisamment conscience pour réagir. Et notre ministère de la pollution, contre la pollution, le ministère de l'Environnement, il lui manque une chose essentielle, ce sont des crédits suffisants, et c'est le pouvoir de faire appliquer les mesures antipolluantes.
Frédéric Ducarme, une réaction à cette archive?
Ouais, mais elle est très intéressante. effectivement, le ministère de l'Environnement, il est créé en 71, hein, donc juste avant. Et là, en fait, 72, beaucoup de gens disent que c'est la grande année de l'écologie. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on a parlé du rapport Meadows. Il y a la conférence de Stockholm, de l'ONU, le premier sommet de la Terre. Création du premier parti vert en Angleterre. De la notion de patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment une année d'utopie extraordinaire. Et juste après, il y a la guerre du Kippour, le choc pétrolier. Et là, c'est la fin. C'est la fin de tous les espoirs qui étaient portés. Et c'est vraiment la fin des Trente Glorieuses. Et donc ce film sort juste sur la fin des Trente Glorieuses, et donc son appel à la fois retentit, mais est aussi oublié aussitôt, y compris à Hollywood, parce que, et ça c'était le constat qu'on a fait dans un article qu'on a publié avec deux collègues sur la crise écologique vue par Hollywood, le cinéma hollywoodien va complètement oublier l'écologie comme thème, à part pour vaguement peindre en vert des films catastrophes, mais qui n'ont rien d'écologique, comme ceux de Roland Emmerich.
Mmh. Vous voulez dire en tout cas que quand Soleil Vert sort en 74, il arrive commercialement dans un contexte idéal, Catherine Dufour ?
Écoutez, j'en sais rien, mais je crois que toute personne qui avait un petit peu les yeux en face des trous tire la sonnette d'alarme depuis, je dirais, le 19e siècle. Hein. Il n'y a pas que Haroun Taziev il y a 50 ans. Moi, j'ai lu, mais de façon très par accident, le journal du curé de Groix, c'est une île bretonne. Il a écrit ça, ça date en 1908, à moins que ce soit en 1892, et il disait « Attention à la pêche au chalut, vous allez détruire la totalité des fonds marins. » Et Yourcenar, donc dans les années 50, un peu avant, un peu après, elle en fait des pages sur l'attrition des espaces naturels par l'industrialisation. Sa propre mère refusait de porter des fourrures et des plumes d'oiseaux pour des histoires écologiques. Donc je crois qu'il y a quand même pas mal de gens pas trop bêtes qui avaient déjà vu tous ces problèmes-là bien avant.
Et c'est-à-dire que les alertes climatiques sur les changements environnementaux, comme vous dites, c'est début 19e siècle, mais c'est déjà les préoccupations écologiques sont présentes assez tôt dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de la science-fiction.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est toujours le problème est toujours le même. Vous avez beau crier au loup, s'il n'y a pas une décision politique, donc le pouvoir du peuple qui se transforme en action, et cette décision politique doit être prise à l'international, puisque les plus gros pollueurs, c'est quand même des très grosses sociétés qui sont multinationales. Si vous n'avez pas une politique internationale forte, vous pouvez être paniqué de génération en génération et tirer tous les signaux d'alarme que vous voulez, ça ne change rien. Vous pouvez toujours trier vos pots de yaourt, ça ne suffira pas.
Yannick Rumpala. Ah, qu'on a définitivement perdu, on n'a pas de chance. Alors, concernant le film Soleil Vert, il a été étiqueté plus tard Cli-Fi pour Climate Fiction. Alors, l'étiquette n'existait pas encore à l'époque, Frédéric Ducarme.
Ben oui, et des vrais films d'inquiétude climatique, il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'en fait, la plupart justement des films comme ceux de Roland Emmerich sont des films de catastrophes. Mais bon, le problème, c'est que c'est pas du tout, et ça, c'est quelque chose qui est, dont c'est un travail qui a beaucoup été mené, notamment par l'historien Jean-Baptiste Fressoz, et après par le spécialiste du cinéma Gabriel Borsmeier, c'est que c'est pas cinématographique la crise écologique. C'est un truc qui est lent, c'est un truc qui est en grande partie invisible, qui est mou. Si vous voulez faire vibrer les gens pendant 1h30, voir un écosystème qui se délite petit à petit, ça marche pas. Donc à la place, on va mettre des météorites, on va mettre des glaciations, on va mettre des grosses vagues, on va mettre des requins qui tombent du ciel, ce que vous voulez. Ça, c'est du ciné. Mais regardez comme ça un appauvrissement progressif, l'érosion lente mais définitive de la biodiversité. C'est très très difficile d'en faire un film. Et ça, c'est un des rares films qui arrive à donner ce sentiment d'une mort lente. Et c'est pour ça qu'il n'est pas spectaculaire, le film. Quelles sont les grandes scènes visuellement, à part justement la scène du thanatorium où il montre des belles images, mais lui-même est au cinéma, du coup, c'est une mise en abîme. Mais sinon, le film lui-même n'a rien de spectaculaire. Et c'est ça qui est très difficile, c'est que ça en vient au fait que même nos politiciens attendent la catastrophe. Ils disent, regardez, elle n'est pas encore là, votre catastrophe. En fait, si. Et ça fait 50 ans qu'on est dans la catastrophe. Mais elle n'est pas spectaculaire. D'ailleurs, c'est triste à dire, mais on en vient presque, en tant qu'écologue, à être content quand il y a des grands feux, parce qu'enfin, c'est visible, enfin c'est manifeste. Alors bon, quand c'est la Sibérie qui brûle, tout le monde s'en fiche. Quand c'est la Californie, eh ben, d'un coup, c'est plus près des décideurs. Alors, je ne suis pas encore à me réjouir des grands feux, mais au moins, ça manifeste les choses et les gens, ça devient plus concret. Alors c'est vrai que quand on dit que 200 espèces de grenouilles ont disparu l'an dernier, vous ne les avez jamais vues, ces grenouilles, et moi non plus.
Est-ce que avec Soleil Vert, hein, c'est la première fois qu'on met en scène une catastrophe climatique environnementale qui n'est pas spectaculaire et dont l'espèce humaine est la seule responsable? Frédéric Ducard.
Alors là, il faudra faire un travail d'historiographie que je n'ai pas fait, mais apparemment, d'après les spécialistes de cinéma que je connais, ouais, il y a quand même une grande originalité à ce film. Et le plus fort, c'est que c'est non seulement le premier, mais c'est quasiment le dernier. C'est-à-dire qu'il n'a pas été suivi. Les films aussi précis, aussi intelligents sur le plan écologique, il n'y a pas eu beaucoup avant bien les années 90 et aucun sorti d'Hollywood. Et il a fallu attendre quasiment. Ce qui a essayé d'être le nouveau Soleil Vert, ça a été Don't Look Up. Alors qui prend
le déni cosmique qui est sorti l'année dernière.
Là, on n'est plus tout sur le film effrayant, on est sur le film grinçant, même s'il y a encore plus de morts. Mais il a essayé d'être aussi le film d'une génération, et c'est un film très intelligent, hein, voyez-le.
Oui, mais c'est une, pour resituer, c'est une météorite qui est l'allégorie du changement climatique qui nous arrive en pleine figure. Catherine Dufour, hein, sur la représentation de Soleil Vert et de cette catastrophe climatique dont l'humain est le seul responsable.
Oui, alors,
dans ce contexte, hein, des années 70.
Non, mais effectivement, il a raison. Souvent, c'est plutôt un décor sur lequel se passe une toute autre action, le dérèglement climatique. On a quand même, voilà, des décors super déprimants avec des pluies acides sur lesquelles il vaut mieux pas traîner, dans des vieux films comme The Element of Crime ou dans le vieux Blade Runner. Mais le plus souvent, effectivement, ça n'est qu'un décor, sachant que il faut une catastrophe qui se passe en 5 minutes quand on est au cinéma. On n'a pas le temps d'attendre 3 générations. Donc le cinéma a beaucoup privilégié la catastrophe nucléaire. Pour dévaster un paysage, c'est beaucoup plus efficace.
C'est-à-dire que le thème principal de la SF des années 60 et 70, on a évoqué plusieurs œuvres depuis le début de l'émission, Fœtus Parti, tout ça, Zanzibar. Mais le thème principal de la SF dans cette décennie-là, ce n'est pas le climat.
Alors attendez, la Cliffy quand même, dans les années 60, il y a Ballard, hein. Le monde englouti, sécheresse, c'est respectivement 1962-1964. Alors effectivement, la Cliffis, il y en a qui sont beaucoup plus récents. Si vous voulez, les plus récents, les années 2000-2010, c'est Bassi Galoupi, hein, La fille automate, il y a Waterknife. Et puis, en français, Jean-Marc Ligny, hein, qui a quand même pas mal creusé sillon avec Aqua ou Exode. Et puis, Margaret Atwood, hein, elle n'a pas fait que La servante écarlate, elle a fait Le dernier homme en 2017. Donc, il y a quand même pas mal d'ouvrages de Cliffy. Il y a des nouvelles très bien d'André Von. Il y avait un recueil qui s'appelait Il faudra bien se résoudre à mourir seul, qui doit avoir changé de nom depuis, mais on s'en fiche. Les textes sont toujours aussi excellents. Et qui montre effectivement, après un détraquement total de l'environnement, le dernier homme qui meurt seul. Et c'est tout à fait affreux, mais c'est extrêmement bien écrit.
Je crois qu'on a récupéré Yannick Rumpala. Vous êtes là ?
J'espère.
Oui, on vous reçoit. Je voulais vous entendre aussi à propos de cette Cli-Fi qui ne s'appelle pas encore Cli-Fi, mais de cette Cliffy pour Climate Fiction de ces années 60 et 70.
Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Hein, la Cli-Fi, c'est quelque chose de plus récent. Hein. De fait, la thématique du réchauffement climatique était assez peu présente à l'époque. Et si on voulait faire rentrer Soleil Vert dans une catégorie, c'est plus celle des écofictions, des fictions thématiques écologiques. Et alors certes, dans le film, il y a la question de la chaleur qui paraît écraser la population, mais on sait jamais d'où elle vient, quoi. Est-ce que c'est un effet New Yorkais tel qu'on en connaît habituellement? Ou est-ce qu'il y a une autre cause qui est inconnue, un petit peu comme dans Blade Runner? Dans Blade Runner, il pleut tout le temps et on sait pas trop pourquoi. Et là, apparemment, ce qui perturbe plus que la chaleur, c'est plus la pollution. Et voilà, la chaleur ne fait que rajouter un événement supplémentaire, mais on ne sait pas trop d'où elle sort, cette chaleur. Et est-ce qu'elle est liée à des comportements humains et à des effets, des problèmes environnementaux? Ça, on ne le sait pas très bien.
Alors donc, mais ils disent qu'elle dure toute l'année.
Oui, elle dure toute l'année. En fait, c'est l'accumulation de pollution qui fait que on voit jamais le soleil. Il pleut en permanence, une pluie acide qui fait que tout le monde a un parapluie ou un ciré ou ce que vous voulez. Et tout le monde essaye de partir en courant vers d'autres colonies qui sont d'ailleurs pas beaucoup plus accueillantes.
Alors, on va continuer à parler dans quelques instants des critiques, du message politique qu'adresse et que formule le film Soleil Vert, mais ce sera juste après cette scène très puissante, celle du thanatorium, d'une euthanasie dans une salle de cinéma Climax.
Sol, est-ce que tu m'entends?
C'est fort.
Oui.
C'est gentil d'être venu, merci.
Oh, Seigneur,
J'ai vécu trop longtemps.
Non.
Je t'aime, Thor.
Je t'aime, Sol.
Est-ce que tu vois ça?
Oui.
C'est beau, n'est-ce pas? Oh oui. Je t'avais dit.
Je n'en avais aucune idée. Aucune idée. Comment aurais-je pu imaginer ça?
Les pupilles dilatées devant une projection et une bande-son haute en couleurs. Vous venez d'écouter la scène culte de Soleil Vert de 1974, car nous décortiquons ce classique de la SF avec nos trois invités du jour. Catherine Dufour, écrivaine de science-fiction et ingénieure en informatique. Frédéric Ducarme, enseignant-chercheur en philosophie de l'écologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et Yannick Rumpala, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Nice. Je vous voyais, Catherine Dufour, pendant qu'on écoutait cet extrait, ça me fait
de plus en plus de peine, parce que moi je me retrouve dans la même situation que Sol vis-à-vis de mes fils. Quand je leur dis, vous savez, hein, avant, on avait des moucherons plein le pare-brise de la voiture. Alors déjà, j'ai plus de voiture, donc. Mais ils me disent, ah bon, des moucherons. C'est horrible. Je trouve ça d'une tristesse.
Mais les moins de 45 ans ne savent pas.
Ah oui.
Le pare-brise de voiture.
Voilà. Et puis je leur dis le matin, on était réveillés à 6h du matin parce que les oiseaux, ils hurlaient, mais ils braillaient. Enfin, il y en avait plein les branches. Et là, ils sont là à tendre l'oreille, ils disent « Ah oui, il y en a peut-être un tout au fond ». Enfin, les campagnes se dépeuplent, elles plongent dans un silence assourdissant, c'est d'une tristesse abominable.
Et pour les pare-brises, vous dites des moucherons, mais en fait, c'était des dizaines, voire des centaines d'espèces différentes.
Voilà, tout à fait.
Oui. Maintenant, quand vous en avez deux ou trois, c'est toujours la même.
Pour les moustiques aux flaques de sang, mais sinon, oui.
La projection du film dont on vient d'écouter la bande-son, c'est des images assez de nature assez banale, hein, qui sont sorties de National Geographic, mais on vient de passer une heure dans un New York qui ressemble à un bidonville. Ces images, du coup, sont absolument splendides, et ça, cet effet-là aussi sur le spectateur, Frédéric Ducarme.
Oui, elles sont très kitsch, même ces images. On est vraiment dans l'agenda pour collégiens, avec des chevaux qui galopent en Camargue, des histoires comme ça, les fleurs sous le vent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il est complètement impressionné, le personnage de Charlton Heston, parce qu'il a jamais imaginé que de telles images puissent être réelles. Et ça, c'est très intéressant, c'est ce que, en psychologie environnementale, on appelle l'amnésie environnementale générationnelle. C'est-à-dire que chaque génération naît dans un monde qui est déjà tellement appauvri qu'on a nous-mêmes des points de repère qu'on se crée quand on est enfant, qu'on va voir s'appauvrir au fur et à mesure de notre vie, mais qui sont déjà eux-mêmes hyper dégradés. Mmh. Et en fait, quand vous regardez rien que dans le vocabulaire, tous ces noms d'animaux qu'on connaît, mais est-ce que quand vous traitez quelqu'un de blaireau, est-ce que vous avez déjà vu un blaireau sauvage, vous? Pas souvent. Quelqu'un est une tête de linotte. C'est quoi une linotte? Ça ressemble à quoi? Et en fait, tous ces animaux, ils étaient assez familiers, en fait. Il y a encore deux générations. Tout le monde savait ce que c'était. Ça va les reconnaître. C'est des trucs qu'on voit plus jamais. Même les moineaux disparaissent de Paris. Peut-être que dans une génération, les moineaux seront plein qu'un vieux souvenir à Paris. Il n'y aura plus que des pigeons et des corneilles. Et peut-être des perruches. Et ça, c'est hyper impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte, en fait. Nous, on voit nos standards qui s'appauvrissent, mais on ne se rend pas compte des générations avant nous, l'appauvrissement qu'il y a déjà eu.
Voilà, vous évoquez la stupéfaction du personnage principal, mais Yannick Rumpala, tout est fait dans le film pour que le spectateur ressente cette même surprise.
Alors oui, on pourrait même le reformuler en disant qu'il y a un triple effet caverne de Platon. Il y a le premier effet qui est la manière dont est marketé le film, la révélation d'un secret, voilà, qui a été un petit peu révélé, le fait que le soleil vert n'est pas du plancton. Il y a un deuxième effet caverne de Platon qui est effectivement le moment où Sorn découvre que ce que lui dit Sol faisait partie de la réalité auparavant. Donc c'est pas le vieux qui radote, hein, c'est quelque chose qui a vraiment existé avec une nature idyllique, qui a vraiment existé. Et d'ailleurs, un petit côté religieux, quoi. Il y a le côté aussi paradis perdu. Il y a une nature presque pure qui nous a été donnée, et voyez ce que l'humanité et la science en ont fait au fur et à mesure du progrès avec un grand prêt. Et puis le troisième effet cavernes de Platon, c'est celui que le public subit en quelque sorte, ou est amené à réaliser, quoi. C'est l'alerte que le film est censé véhiculer voilà, à travers toutes les thématiques qu'on a évoquées, quoi. Surpopulation, disparition des espèces, disparition des ressources. Et j'ajouterais, il y a même un petit moment qui presque anticipe notre époque, c'est le moment où on voit la fille qui sort de meubles. D'ailleurs, il y a peut-être un aspect genré qu'on pourrait évoquer également.
Bah, exactement, vous allez voilà. Mais avant d'évoquer la place des femmes dans ce film, vous évoquez là des effets cavernes de Platon. On peut même ajouter que cette projection de cinéma là dans ce thanatorium, exactement, on est là, nous, en tant que spectateurs, et qu'est-ce qu'on voit en générique? Ces mêmes images. Donc ça veut dire que nous-mêmes, en tant que public, en tant que spectateurs de film, on est déjà à la place des personnages qu'on voit dans ce film, Catherine Dufour. Je vous vois sourire.
Là, je sèche un peu.
Donc, bah, tout ça pour vous conduire sur le fait que ce film, en tout cas, utilise plusieurs moyens pour essayer de s'adresser très directement à ses spectateurs et cherche à adresser un message assez direct, il me semble, Frédéric Ducarme, sinon.
Ben oui, parce qu'en fait, il y a cette scène de début dont vous avez parlé, là, le générique, où en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça commence avec des vieilles photos de l'Amérique du 19e siècle, en gros, de l'Amérique rurale, traditionnelle, et chronologiquement, comme ça, c'est une succession de photos, une espèce d'album qui va s'accélérer, et avec l'industrialisation progressive, et aussi un dézoom, parce qu'au début, c'est vraiment des fermiers dans leur ferme, et à la fin, on voit des zones industrielles gigantesques à perte de vue, des parkings avec des milliers de voitures, etc. Et ça va de plus en plus vite, avec une musique de plus en plus dramatique, et en fait, cette scène d'ouverture, finalement, ce qui est assez rare, parce que c'est un film qui se passe 50 ans après, mais souvent, la science-fiction, notamment tout le post-apocalyptique, élude complètement ce qu'il y a eu entre les deux. Alors que là, on vous le fait même en accéléré. Donc on vous prend au 19e siècle, et on vous fait tout le 20e siècle en accéléré, et on vous amène en 2022. Et donc ça, effectivement, cette projection, ça pose la question, en fait, de ce processus. Alors que tout à l'heure, on parlait du post-apocalyptique. Effectivement, dans la cli-fi, il y a quelques films, tout le monde se souvient de Mad Max ou de Waterworld, mais à chaque fois, c'est des films, il y a eu une apocalypse, et puis c'est comme ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi, comme aussi dans Snowpiercer, où là, c'est un monde froid. Alors, c'est le seul où on thématise, on explique un peu, il y a eu des expériences pour régler le problème du réchauffement climatique, puis ça a trop bien marché, du coup on a eu un refroidissement, un âge de glace, mais c'est déjà dans le lointain en arrière, et donc du coup c'est complètement dépolitisé. Alors que là c'est un film où on est en plein dedans, avec en plus l'idée qu'il y a du climato-scepticisme, c'est-à-dire que le gouvernement et surtout la firme qui a pris le pouvoir nous cache les choses et fait semblant que tout va bien. Et donc, ce film est beaucoup plus politique que tous les films post-apocalyptiques où finalement la politique n'existe plus.
Oui, puis vous évoquez, hein, on a évoqué en début d'émission le fait que Soleil Vert, c'est un film qui n'est pas spectaculaire, hein, pas de décors futuristes, pas d'effets spéciaux. D'ailleurs, les salons ressemblent à des salons des années 70. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté d'inscrire ce film dans le présent des années 70, Catherine Dufour.
Oui, alors quand même, le film essaye de présenter quelque chose d'un petit peu futuriste, mais c'est le futur tel qu'il est vu dans les années 70. Donc là ça, c'est le seul côté mignon du film, c'est le côté un petit peu désuet de sa façon d'envisager le futur, avec ses teintes très acidulées, tous les éléments sont en plastique extrêmement rond. C'est toujours, dans le design, c'est très difficile d'anticiper les formes telles qu'elles seront dans 20 ans ou 40 ans. C'est pour ça que les films en général, au moins au niveau design, même si le propos est très moderne, au niveau formel, ils ont de toute façon tendance à vieillir et ce film-là n'y échappe pas.
Mais c'est peut-être une de ses forces aussi, parce que justement, c'est pas comme tous ces films futuristes des années 70-80 qui nous font un futur des années 80 très 80s. C'est un film qui se passe en 2020 et où il n'y a pas de voiture volante.
Oui.
Et ben finalement, ça fait une prédiction de plus qui a marché et qui a battu la plupart des autres.
Oui, alors en termes de science-fiction, c'est vrai que ça fait peut-être partie des premiers films où le décor est un peu cracra. Parce que la science-fiction à l'époque, bon, c'était, je sais pas moi, Star Trek, tout était quand même très propre, très lisse. Et un des premiers films de science-fiction à filmer littéralement une poubelle géante, c'est Star Wars. Et on peut dire que dans Soleil Vert, tout ce décor totalement de garbage est assez post-moderne.
Yannick Rumpalin, hein, sur le rapport au film, sur le rapport au futur et au présent de ce film.
Ouais, je dirais qu'à la limite, ce qui est le plus intéressant, c'est pas tellement l'évolution technique, hein, puisque le film montre assez peu d'évolution technique. Hein. Je parlais du jeu vidéo tout à l'heure, qui ressemble à une espèce de vieux film d'azur, ce qui ferait complètement ringard aujourd'hui. À mon avis, le film est plus intéressant sur l'aspect économique et politique, hein, puisque ce que le film montre aussi, c'est pas seulement l'aspect écologique, hein, c'est la domination des multinationales. Le fait que la production de produits de base et vitaux tombe complètement dans les mains de certaines multinationales, dont on s'aperçoit de surcroît qu'elles entretiennent des liens très rapprochés avec le monde politique. Donc le film nous montre aussi une espèce d'imbrication entre les puissances économiques et les puissances politiques. À certains égards, c'est aussi de ce point de vue-là qu'il est assez visionnaire. Voilà, on connaît tous aujourd'hui les phénomènes de lobbying. Et ce que le film montre aussi, d'une certaine manière, c'est cette intrication. Voilà, on n'est plus au niveau du lobbying dans le film. Hein. Les liens sont très proches entre un monde économique en plus qui ressemble parfois au monde des mafias. Et il y a comme une thématisation de quelque chose qui, à certains égards, peut nous faire aussi penser à aujourd'hui.
Oui, c'est peut-être une anticipation du complotisme, cette impression que tout vient du dessus, de forces politiques, qu'on nous cache tout, on nous dit rien et on nous manipule.
Les autorités nous mentent.
Voilà, tout est faux, rien n'est vrai. Alors, est-ce qu'il y avait déjà cette mentalité-là à l'époque? Est-ce que c'est vraiment un précurseur ou pas?
C'est un vieux truc américain. Ça. Depuis le 19e siècle, les Américains, il y a vraiment l'idée que l'État central, faut qu'il ait le moins de pouvoir possible. Et d'ailleurs, les gens du FBI sont toujours les méchants dans les films américains. On n'aime pas Washington en Amérique. Le pouvoir doit être le plus décentralisé possible. Et donc là, le complotisme par rapport à la centralisation du pouvoir, qui est toujours un peu crypto-soviétique aussi, c'est une grande peur américaine qu'on retrouve dès le 19e siècle.
D'accord.
Si tu veux, tu peux prendre une douche et laisser couler l'eau aussi longtemps que tu voudras.
Tu as de l'eau chaude ici?
Oui, très chaude.
Oh, il y a si longtemps. Je ne sais plus ce que c'est qu'un bain chaud.
Après, je te ferai un massage.
D'accord. Allume le conditionneur d'air et mets-le à fond.
On sera glacé, comme au temps où l'on avait encore des hivers.
Et pour le petit déjeuner?
Dis ce que tu veux, tu l'auras.
Des framboises.
Un œuf.
Non, des framboises.
Oh, mais j'ai jamais vu de framboises.
Bon, un œuf alors. Je suis fou de voir des framboises.
Ah, le temps où nous avions encore des hivers et des framboises. Alors dans Soleil Vert, il y a l'idée d'un confort provisoire, Catherine Dufour. Hein, que Soleil Vert critique d'une certaine façon le consumérisme.
Oui, totalement. Il y a aussi cette... Là, c'est pas la framboise, je crois que c'est la confiture de fraises, hein, où il y a une sorte de nostalgie absolue de la confiture de fraises. Et il y a aussi la position... Alors, ce film est quand même de son époque. Il y a la jolie fille obligatoire qui est bien sûr un peu benette et qui glousse. De toute façon, c'est obligatoire et qui est très docile. Mais c'est normal parce que c'est une pièce de mobilier. Elle est fournie avec l'appartement. Je me suis rendu compte que j'ai réutilisé ça dans une de mes nouvelles nommée Pas le mal, où il y a une fille qui gagne sa vie en faisant mobilier. Hein, elle fait table basse. Elle loue ses services et donc je me suis rendu compte avec horreur que c'était pas du tout une idée originale, dont j'étais très fière, que c'était un recyclage inconscient de la place de Shirl dans ce film, qui est à la fois extrêmement sexiste, mais c'est pas un sexisme gratuit, c'est pas l'époque qui veut ça, c'est véritablement une dénonciation de la marchandisation de l'être humain.
Oui, c'est-à-dire que dans les quartiers riches, hein, on achète des beaux duplex et la femme qui va avec, et ça, ça dit, le sort des femmes d'ailleurs dans les fictions futuristes et apocalyptiques n'est pas toujours abordé, ici c'est le cas, et ça dit quelque chose aussi de la crise environnementale.
Oui, enfin, ça dit quelque chose aussi du côté novateur de Fleischer, le réalisateur, et bien sûr de ses scénaristes. Je crois qu'ils ont vraiment voulu balayer tout l'éventail des problématiques de cette époque. Et il faut bien dire que cette époque, c'est l'éveil des mouvements des libérations féministes. C'est quand même l'époque où Ursula Le Guin a commencé à publier. Ça doit être en 69. Il y avait Joanna Russ. Enfin, il y a eu vraiment un bouillonnement du féminisme, il a éclos à ce moment-là.
Est-ce que ce que ce film montre, c'est que le réchauffement climatique n'est pas qu'une question de degré, mais qui peut aussi avoir des impacts dans différents domaines sur toutes les facettes de la société, même non scientifique.
Mais le réchauffement climatique, c'est juste l'avidité. Donc traiter les femmes comme du mobilier ou vomir ces résidus pétroliers sur des champs de fleurs, enfin, ça participe du même état d'esprit.
Frédéric Ducarme.
Oui, ben évidemment, le réchauffement climatique, c'est pas seulement un phénomène climatique où il fait plus chaud. Évidemment, ça change la donne de beaucoup de choses. On l'a vu cet été. Là, on s'aperçoit que quand il y a plus d'eau, les centrales nucléaires c'est plus compliqué. Il suffit de pas grand chose pour que les forêts meurent, et quand elles meurent, qu'est-ce qu'elles font? Elles brûlent. Pour que les cultures marchent plus, donc. En fait, la crise écologique se transforme très rapidement en crise économique, donc en crise sociale, donc en crise politique, et tout ça, ça s'enchaîne à une vitesse assez prodigieuse. Et alors, ça, c'est ce que vont montrer toute une autre génération de films de science-fiction un peu plus proche de nous. C'est ce qu'on voit encore une fois dans Le Fils de l'Homme, hein, où justement, on a un délire sécuritaire qui suit la crise qui, à la base, est censée être seulement écologique.
Yannick Rumpala.
Oui, tout à fait. Je peux que confirmer. C'est ce qu'on voit dans nombre d'œuvres littéraires et cinématographiques, c'est que les effets écologiques ne sont jamais que des effets, ne sont jamais uniquement des effets écologiques. Il y a des réfractions à la fois sur le plan économique, politique, moral. On l'a dit auparavant, et on le retrouve dans beaucoup de SF, en littérature et au cinéma. Je pense aussi à Julian, par exemple, qui montre que l'épuisement des ressources peut se traduire par des formes de retour des idées réactionnaires. Là, on le voit aussi. Il y a une forme de régression à la fois par rapport au monde tel qu'on pouvait l'imaginer, une forme de régression politique et morale. Voilà, c'est un retour en arrière, y compris sur le plan démocratique. Et c'est un peu ce qui laisse les protagonistes totalement désarmés. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Il y a ces effets écologiques qui nous submergent, un monde politique qui paraît complètement corrompu, et aucune prise pour la population. Et pour le dire en termes philosophiques, les puissances d'agir, ce qui reste entre les mains des populations pour contrer les situations qu'ils subissent, ces puissances d'agir, elles sont très très maigres, et d'autant que chacun est conduit à chercher comment il pourra vivre le lendemain. Donc on est face à des gens qui sont forcément désabusés et désarmés.
Alors dans ce film, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un climat d'insécurité, les gens meurent dans la rue, les églises sont transformées en hospices surbondés, tout le monde est super armé devant les habitations. Il y a ce climat de tension sociale qui est très palpable à l'image, Frédéric Ducarme.
Tout à fait. Et oui, en fait, ça c'est aussi un héritage du livre, hein, de la peur démographique qui devient aussi une peur de la surpopulation qui a faim. Et les gens, quand ils ont faim, ils essayent de trouver de la nourriture, et quand il n'y en a pas, ils la prennent. Et donc, ça rejoint tout à fait aujourd'hui tout le courant du survivalisme. Ce qui est marrant, c'est que le survivalisme, c'est un courant qui naît de ça, qui se dit, on ne va pas y arriver, la crise, elle va forcément nous arriver dessus. Et donc, autant se préparer, s'armer, etc. Moi, je ferai partie des survivants. C'est ça, la morale survivaliste. C'est, moi, au moins, je serai prêt, je les attends, j'ai tout l'équipement chez moi. Bon, c'est des gens qui ne voient pas très loin, parce qu'en fait, il ne suffit pas d'un bunker pour survivre à une vraie crise grave, en fait.
Je crois qu'on a compris avec le confinement que non, on ne peut pas survivre en restant embusqué dans un bunker pendant un an, deux ans, trois ans, sans sombrer dans la folie et la déréliction. Le survivalisme, c'est quand même très individualiste, et on s'est rendu compte que en tant qu'individu, on a besoin d'eux autres. Moi, je préfère me tourner vers des gens qui sortent plutôt des manuels de permaculture. Vous voyez, ça me paraît ce qu'on appelle le solar punk. On appelle ça punk parce que c'est do it yourself, mais solar, c'est pour solidarité. ou solaire ou ce que vous voulez. C'est Diwu Do It With Others. C'est un courant qui vient du Brésil, qui date de 2012. C'est lié au pop-punk. C'est des gens qui essayent de faire eux-mêmes et de faire en solidarité avec les autres des fabriques de solutions à base de permaculture ou de Fab Lab. Enfin bref, une façon de vivre ensemble un peu plus convaincante que le survivaliste avec son gros pistolet, son gros bunker.
Alors là, dans Soleil Vert, on a peu de perspectives d'espoir ni de futur. On a une extrême vulnérabilité face à une minorité privilégiée qui jouit du luxe. Ça aborde aussi la question du pouvoir et de la domination. Catherine Dufour.
Ah oui, mais ça c'est en science-fiction, ça date de Métropolis, 1927. Voilà, il y a les tours et tout en haut vivent les riches et en bas dans la pollution vivent les misérables travailleurs. Et ça n'a pas changé. Je vous retrouvais ça tout dernièrement, je sais pas moi, dans Altered Carbon. Dans Vesper Chronicle, c'est ça.
Dans Snowpiercer.
Voilà, dans Snowpiercer, absolument partout, vous avez des riches qui se gobergent et puis des pauvres qui crèvent et qui se tapent dessus. Ça, c'est une sorte de passage obligé. Il y a quelques films qui abordent quand même le fait, je me souviens d'un film catastrophe où les riches dans leur... Bah, c'est le cas aussi d'ailleurs de Don't Look Up, où finalement les riches, ils se retrouvent entre eux dans leur luxe, mais ils en crèvent aussi parce qu'on ne peut pas être riche tout seul, on ne peut pas survivre tout seul sur une terre qu'on a dévastée.
Frédéric Ducarme. Oui, ben sur cette thématique de la disparité sociale aggravée par une crise climatique.
Ça c'est clair. En plus, c'est à la fois la source déjà de la crise écologique et c'en est la conséquence, c'est le renforcement de. Donc c'est vraiment une spirale et c'est quelque chose qu'on voit énormément dans les films, le côté aggravation des inégalités, notamment parce que certains veulent être ceux qui survivront. Et ça rejoint même. Un mythe qui est très très important pour beaucoup d'œuvres écologiques, surtout en Angleterre, qui est le mythe de Noé. C'est-à-dire être du côté de l'Arche de Noé. Et beaucoup d'œuvres de science-fiction se terminent avec l'idée de l'Arche de Noé. C'est même le cas c'est même le scénario, en fait, de Interstellar. C'est la Terre, elle est foutue, bah mince. Alors plutôt que de faire de l'agronomie, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une belle arche et puis on va se barrer et on va trouver une nouvelle Terre. Et c'est un risque. Enfin, d'une part, c'est absurde scientifiquement. Et aussi politiquement, et donc ça c'est des choses, moi ça m'a horrifié de voir ce film.
Moi ça m'énerve, c'est le mythe de la planète B, et ça c'est pour dire, c'est pour pas s'occuper de la planète A, enfin on n'a pas besoin de dépenser des milliards pour aller sur une planète B.
C'est là que Don't Look Up a été très intelligent d'ailleurs, en disant arrêtez de croire au mythe de la planète B.
Oui, qu'il n'y a pas de plan B. Alors dans Soleil Vert, il n'y a pas de plan B non plus, tout semble assez bouché, aucune rébellion est possible, d'ailleurs c'est l'image assez connue, les émeutiers sont embarqués à la pelleteuse comme des sacs poubelles. Ça donne un film très très pessimiste en ce qui concerne un futur politique assez terrible, Frédéric Ducarme.
Oui, c'est ça aussi qui différencie ce film-là de beaucoup de films à thème écolo, parce qu'Hollywood aime bien le happy end. Et là, c'est pas du tout un happy end, effectivement. Ça fait partie de ces films qui sont plutôt ceux, normalement, des gens qui sont... dans les angles morts d'Hollywood, je pense à des films comme They Live, Invasion Los Angeles, qui se termine quasiment de la même manière, avec la révélation du message, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire. Tout le cinéma de Carpenter, souvent ça se termine mal. Et là, on est vraiment dans cette catégorie-là, et c'est ça qui fait que ce film est vraiment un ovni, parce que vraiment, il vient du cœur d'Hollywood, c'est la MGM, c'est Richard Fleischer, qui est vraiment un soldat d'Hollywood, et c'est aussi un film qui est éminemment subversif, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu avant, et il n'y en a pas beaucoup eu après.
Très très rapidement, Catherine Dufour, on arrive à la fin de cette émission sur le message politique que peut faire passer ce film ou non.
Le message politique qui fait passer ce film, c'est juste faites quelque chose très très vite avant qu'il soit trop tard. On peut dire que maintenant il est trop tard. Maintenant on va pas finir là-dessus parce que c'est extrêmement triste. Parlons plutôt science-fiction et espoir. Donc le but c'est pas de mettre au point des utopies. Le but c'est de rêver des prototopies, c'est-à-dire des conditions où ça pourrait aller moins mal. Donc là je vous renvoie Yannick Rumpelaer, Des décombres du monde. Vous pouvez aussi lire son copain Ariel Kirou dans Les imaginaires du futur. futur, parce que ce sont des livres qui vous donnent des pistes pour pas vous livrer pas une solution clé en main d'un futur parfait.
Merci pour ces pistes, Catherine Dufour. Je suis malheureusement obligée de rendre l'antenne, mais merci pour, à vous tous pour la science. CQFD, c'est une émission à écouter sur France Culture ou sur l'appli Radio France.